Bonsoir, bienvenue sur Radio Libertaire 89.4 dans l'FM. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître et sans publicité. Bonsoir tout le monde, bonsoir Maxime et Tom qui sont encore à la régie. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Bonsoir Pascal.
Bonsoir Karine.
Pascal Urbu est ce soir notre invité, l'invité de l'émission Distillerie. Pascal Urbu pour actrice et militante, avec qui nous allons parler de son film, le film dans lequel elle joue le rôle principal qui est Thelma. Et nous allons parler d'elle, nous allons parler beaucoup du film, nous allons parler de son parcours, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle aime faire, de ce qu'elle aimerait faire. Mais avant, Vincent, nous avons une actualité brûlante depuis un mois, depuis la dernière édition. Et nous avons un certain nombre de feedback que nous allons faire là, rapidement. On a 10 minutes, on est déjà un petit peu en retard, donc on a 10 minutes, pas plus. Le 25 septembre, il y a une assemblée générale des trans.
À la mairie du deuxième, donc on a remercié déjà Jean-Jacques Bouteau, le deuxième des Verts, qui nous a parlé de cette salle. On était, je sais pas, une cinquantaine.
Plus de 50, 40 personnes en permanence toute la journée.
Plus de 50 personnes. L'Assemblée générale qui a duré, je sais pas combien de temps.
Toute la journée.
Bah, vaguement, hein.
Comme 13h, 17h.
Et sorti de cette Assemblée générale, d'où étaient invitées toutes les associations trans au niveau national, une résolution que tu as, Karine.
Que je dois avoir quelque part, qui dit que les personnes trans, donc réunies en Assemblée générale, demandent la dépsychiatrisation des questions trans, donc ne plus être reliées à une mammographie psychiatrique, demandent également donc le libre choix des médecins et demandent à ce qu'on puisse obtenir des numéros de sécurité sociale correspondant aux gens revendiqués, sans avoir besoin de passer sur la table d'opération. Voilà, dans cette assemblée générale, il y avait pas mal d'associations qui étaient présentes. Il y avait outre le GATT qui l'appelait. Il y avait le PAST, il y avait l'association du syndrome de Benjamin, il y avait une représentante de l'association Trans-Lorraine, il y avait Tiresias, il y avait nos amis des Panthères Roses et la condition trans. Cette réunion était aussi prévue pour préparer la réunion qui avait lieu le 27 septembre avec l'ANAS. Je ne sais pas si Tom revient nous rejoindre, non. Donc il y avait une réunion très importante à la messe.
J'y étais pas, donc c'est un peu difficile d'en parler. Ce qui est assez satisfaisant, on parlait dans l'émission précédente, c'est que pour la première fois, les pouvoirs publics faisaient appel aux trans. Donc toutes les associations trans et groupes, puisqu'il y avait le groupe Activiste Trans, il y avait Transact qui n'est pas constitué en association, il me semble, qui était quand même convié, évidemment, ont été évincées certaines associations parce qu'elles venaient juste d'être créées ou parce qu'elles n'ont pas été conviées pour identifier ou pour X raisons que ce soit.
Il y en avait
9. Tu les énumérais ?
Oui, non, je ne sais pas de tête. Donc il y avait 9 associations, groupes. De toute façon, sur le site de la radio, je crois que tout est indiqué. Tom ?
Je peux peut-être rajouter ce qui
manquait. Ah, mais oui.
Alors on a dit Transact, il y avait également Autre Regard
à Marseille.
Il y avait Cabiria de Lyon, il y avait donc l'ASB, le Caritig, il y avait
le
STS 67, donc le
Sport
Strasbourg. Il y avait le PAST et il y avait le GATT et la Commission Transact. Voilà.
Tous. Bon, c'était une réunion qui était quand même importante.
Oui, tout à fait. Bon, ça s'est passé effectivement dans une bonne ambiance, un peu cacophonique au départ, mais enfin ensuite qui s'est un petit peu mieux régulé. Et puis bon, ce qui fait que toutes les associations, les groupes disaient plus ou moins la même chose, allaient dans le même sens, et en fait on renforçait les uns renforçaient les dires des autres pour arriver en conclusion. Finalement, l'ANAS reconnaît qu'en matière de transsexualité et de soins pour les personnes trans, transgenres et transsexuelles, la déontologie médicale n'était pas respectée. Voilà ce qu'on peut en dire concrètement.
Voilà, alors donc, dans cette actualité extrêmement chargée, nous avons eu très vite, le 2 octobre, la marche Existence.
Qui partait de l'Opéra jusqu'à la République, ce qui était assez satisfaisant. Je pense qu'on était beaucoup plus nombreux que l'an dernier. Après, je pourrais pas non plus chiffrer, on était aux alentours de 300.
Oui.
Entre 300 et 500 personnes.
Ouais, 200 à la louche, Pascal. Mais l'existence était organisée par deux associations comme l'an dernier, le PAST et l'ASB. Voilà, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus politique que l'an dernier, ne serait-ce que parce qu'il y avait eu la réunion à l'ANAES précédemment, et notamment aussi l'Assemblée Générale des Trans, appelée par le GATT.
Oui, c'est vrai, c'était plus politique, plus militant, donc le mot d'ordre, c'était...
psychiatrisation des trans.
Psychiatrisation des trans. C'est vrai que les problématiques que rencontrent les trans sont nombreux, mais on a fait ce choix parce qu'il est fondamental, mais il y a d'autres problèmes. Et bon, ça n'a pas plu à certains, mais nous, c'est...
À certaines.
À certaines et certains. Mais en tout cas, ce qui est positif dans cette marche, c'est que toutes les associations trans sont tombées d'accord sur ce mot d'ordre. Et c'est le principal parce que, de toute manière, ça concerne les trans, en fin de compte. Donc elles savent exactement de quoi il s'agit. Même si, c'est vrai, on a besoin de soutien de toutes les associations. Donc c'était une belle marche. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'autres associations, donc je ne vais pas me mettre à citer les associations parce que sinon je vais en oublier plein. Mais c'était une très très belle marche, voilà, médiatique aussi, de plus en plus médiatique, pardon, de plus en plus médiatique, puisqu'on a eu beaucoup de journalistes, beaucoup de télé qui se sont intéressés à cette marche, voilà.
Alors le bruit que vous avez entendu, cet homme qui fait une entrée fracassante dans le bureau. Bienvenue Tom. Donc
Ah bon, il était pas là parce qu'il parlait tout à l'heure.
Oui, mais j'étais à la technique.
Ah, d'accord.
Merci Pascal.
Je t'avais dans le dos, c'est pour ça.
Alors, on va quand même très rapidement faire quelques...
Je voulais juste préciser rapidement que la commission Trans d'Actes Paris... et notamment le groupe d'ACT UP, Tony Banderol, fier, et je pense que la dimension de l'existence cette année était vraiment placée sur la non-victimisation, comme ça avait pu l'être les cas précédents, les années précédentes du moins. Voilà.
C'est bien de le rappeler. Ça veut dire que les positions des associations évoluent sur ce sujet-là.
Et surtout que ce n'était pas les mêmes habituels, c'est-à-dire que d'habitude on avait un certain nombre d'associations qui n'ont pas appelé cette année à la marche, et qui finalement... ne sont pas vus. Et nous, il y avait autant de monde quand même. Donc finalement, pas de récupération.
Il y avait plus de trans que des personnes qui soutenaient les trans pour une fois.
Je ne sais pas s'il y en avait plus, mais il y en avait plus qu'habituellement et beaucoup.
Oui, de plus en plus en tout cas. Moi, qui...
C'est bien. C'est, ce qu'il
ouais, faut. C'est exactement ce qu'il faut.
On a quelques petites annonces à passer. Rapidement, le 26 octobre.
Le 26 octobre, c'est la journée internationale des intersexes. C'est une journée qui a été mise en place, je ne sais pas quand, mais il y a assez longtemps, et qui, pour la première fois, va être reléguée en France. Donc, à cette occasion, le CARITIG, qui est le Centre Aide, Recherche, Information, Trans, Identité de Genre, donc une association trans.
Non, pas trans, transsexualité. C'est ça le titre.
Transsexualité, pardon. Organise une projection d'un film qui s'appelle Is It a Boy or a Girl? Le 26 octobre à 20h au Centre Gay et Lesbien, qui sera suivi d'un débat sur les intersexes. Voilà.
Pas oublier les intersexes. Merci Vincent.
Je ne sais pas si vous avez... il y a une information sur intersexualité.org, il y a trois W devant. Apparemment, dans le même sens un petit peu que GATT, ils essayent de créer une communauté intersexe au Canada, francophone entre autres. Et je trouve que c'est très bien ce qu'ils font.
Mais je sais que ça existe déjà. Il y a un gros lobbying des communautés intersexes aux États-Unis. En France, c'est complètement invisibilisé. Oui, bah, au Canada.
Là, c'est la communauté francophone qui essaie de s'organiser, finalement, un petit peu à travers aussi les pays francophones qui ne sont pas que le Canada. Donc, ça, c'est à suivre.
Pascal Wourby. Bonsoir, Pascal.
Rebonsoir, Karine. Bonsoir, Vincent. Partant,
mais t'es obligé de prendre cette voix langoureuse.
Oui, en fait, mon rêve, moi, c'est de faire Macha.
Macha
Béranger.
T'es trompé de l'air, chérie.
Bon, zut.
Félicitations.
On va pas faire comme sur les plateaux de télévision, on va faire semblant de se vous voyez comme si on se connaissait pas. On se connaît très bien.
On se connaît très très bien, Pascal.
C'est vrai qu'on a pris un verre tout à l'heure.
Oui. Voilà. Thelma.
Thelma. Alors, Thelma, c'est un film. Donc, ce qui est intéressant avec Thelma, donc, c'est la première fois. en tout cas en France, peut-être dans le monde, où une fiction est jouée par une trans, transgenre, transsexuelle, comme on veut.
Tu peux rappeler vite, c'est l'année.
Alors, le film est sorti en France en 2002. Il est sorti uniquement à Paris dans les MK2. Il a été tourné en 1999. Il a un peu ramé pour sortir parce que c'est un film qui est autoproduit. Et la distribution dans ces cas-là, elle est très difficile. Il faut savoir que nos amis américains, ils achètent les salles. Et donc, il ne reste pas grand-chose pour les autres. Et donc, on s'est battu pendant longtemps. Et finalement, les MK2 Paris ont sorti le film. Malheureusement, il est sorti un peu discrètement à cause de l'actualité. Il y avait 29 films qui sortaient à ce moment-là. Et le principal problème pour Thelma, c'est qu'on n'avait pas de budget publicité. Donc il est sorti sans publicité. La majorité de la presse était bonne, surtout les plus difficiles, c'est-à-dire Télérama et compagnie. Donc voilà, donc c'est un film qui est joué, c'est une fiction, donc comme je disais, c'est une histoire d'amour. Et c'est la première fois en France qu'on a vu ça, et je suis fier de ce film parce que je joue d'abord le premier rôle, et deuxièmement, je pense que c'est ce film qui a donné l'idée à Wellside. Donc c'est Wellside, c'est un bébé de Thelma. Parce que je parle de Wellside parce que Wellside a bénéficié de plus de publicité que Thelma, donc peut-être qu'il est plus connu par les auditeurs.
Mais ça fait 2 minutes qu'on parle de Thelma et les gens ne savent pas du tout de quoi il s'agit, quoi. Donc est-ce que tu peux rappeler, enfin, il s'agit d'un film fait par qui?
Alors voilà, Thelma, donc c'est pas Thelma et Louise, comme beaucoup de gens posent la question. C'est pas Thelma et
Thelma
Louise.
Thelma est morte, elle revient, quoi.
Donc Thelma, c'est un vieux projet qui date depuis 2 ans, que Pierre Alain Meyer, donc le réalisateur, en fait, il faisait un documentaire au Brésil sur la communauté trans, et il est tombé sur Thelma Lip, qui est une personnalité au Brésil, trans. Elle avait eu son émission à la télé en prime time, ce qui est très rare dans le monde pour le signaler. Elle était très star là-bas. Il était un peu fasciné par cette personne et puis il a voulu faire un documentaire avec elle. Et puis il lui a dit, voilà, je suis là pour faire un autre documentaire, mais j'aimerais bien faire un documentaire avec toi. Est-ce que c'est possible et tout ça. Et puis elle l'a pris un peu de haut à ce moment-là, d'après ce qu'il m'a raconté. Donc je traduis. Elle lui a dit, oui, mais toi, tu fais quoi pour moi? Il lui a dit, je pourrais écrire peut-être une fiction pour toi. Elle lui a dit, chiche, alors moi je te fais l'interview. Et puis, ça tombe bien parce que moi, mon rêve, c'est de jouer au cinéma, donc écris-moi. Donc voilà, l'idée est partie de là, de Thelma Lip, avec Pierre Alain Meyer. Ça n'a pas pu se faire avec Thelma Lip, pour des raisons X, Y, que je ne vais pas avoir le temps de citer ici. Et donc voilà, moi je suis arrivé 12 ans après, dans un casting, à Paris, parmi, je sais pas, une dizaine de trans. Et puis voilà. Il voulait absolument que ce soit une trans qui le joue, parce que c'était quelque part une promesse morale qu'il a passée avec Thelma, et il voulait pas la trahir, parce qu'elle, elle pouvait pas jouer le film, bon, parce que en partie, elle était malade. Mais quand même, il voulait quand même garder cette promesse qu'il lui a faite, donc il voulait absolument que ce soit une trans, et du coup, il a tenu cette promesse, et moi, j'ai eu le rôle 3 jours après le casting. 40 jours après, on est parti sur le tournage. Le tournage a duré 3 mois. Ça s'est passé ceux qui l'ont vu savent que ça se passe d'abord en Suisse. C'est un road movie qui part de Lausanne, en passant par l'Italie, jusqu'en Grèce. Voilà, il y a une belle promenade, des belles images, en compagnie de Thelma et le personnage de Vincent, qui est joué par Laurent Schilling. En fait, le point de vue du film, c'est un point de vue d'hétéro, hein, c'est ce que je dis toujours, donc il faut pas... C'est un point de vue d'hétérosensible, comme on dit.
Voilà,
qui croit pas cette seconde.
C'est en partie d'intérêt, Sophie, parce que bon, on a vu le film en ta compagnie, puisque Pascal organise la promotion et la diffusion du film dans des endroits à Paris pour que ce film soit diffusé. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. C'est vrai, bon, donc l'idée, quand on voit le film, on se dit c'est un film d'hétéro, ça c'est clair.
Oui, c'est vrai, c'est ce que j'entends souvent dans la communauté LGBT. Et parce qu'il y a des intersexes aussi. Souvent, on fait ce reproche au film. C'est vrai que c'est un film, il est assumé comme ça. Et je trouve, personnellement, que quand même, c'est, malgré tout, c'est vrai qu'on est obligé, à un moment donné, souvent, dans le film, de passer par des clichés comme ça. Je mets entre guillemets les clichés parce que c'est pas très violent, finalement. C'est juste une manière de soulever des questions que l'hétéro se pose sur les personnes transgenres. Donc, il y a ces questions-là, en général, qui sont soulevées. Mais je trouve que c'est très bien fait, donc c'est pas quelque chose qui...
Ah, moi, j'avais une question. Quel était ton objectif en acceptant le rôle? Et qu'est-ce qui t'a motivé dans le scénar même pour accepter ce rôle? Et finalement, est-ce que t'as été déçu par la réalisation?
Au début, quand je suis allé au casting, franchement, j'étais sûr que c'était pas pour moi, que j'allais trouver encore un scénario où le personnage est drogué, meurt à la fin, enfin le cliché habituel, le gros cliché. J'étais persuadé de ça. C'est pour ça que j'ai lu juste les 10 premières pages et les 10 dernières pages. Et puis du tout, c'était pas ça du tout. J'étais surprise à ce moment-là. Donc du coup, j'étais obligée de relire tout le scénario. Moi qui lis pas beaucoup, donc c'était une performance. Et franchement, je trouvais que c'était courageux. C'est vrai, aujourd'hui, l'idéal pour une trans, c'est de jouer madame ou monsieur tout le monde, parce que les trans, c'est dans les deux sens, c'est les garçons et les filles. Donc pour moi, l'idéal dans le cinéma, c'est ça, c'est qu'on puisse jouer tout le monde. Mais en attendant, c'est bien qu'on ne nous caricature pas dans des films, qu'on ne donne pas des rôles à Vincent Pérez, qui après dit il était content, il s'est tellement senti femme qu'il a fait bander les techniciens. Bon, ça, ce genre de caricature nous fait beaucoup de tort. Et voilà. c'était un défi, donc à ce moment-là, pour répondre à ta question, Vincent, c'était un défi, je voulais montrer qu'on peut être trans et on peut jouer dans une fiction, on n'est pas obligé de jouer sa propre vie et dire « je souffre, je suis malade, il faut me soigner, etc. etc. » Donc je voulais qu'on sorte un peu de cette image un peu caricaturale, je pense précisément à l'émission que j'ai vue hier, l'image un peu victime, quoi. Et du coup, voilà, je trouve que le défi a eu lieu. Après, on aime ou on n'aime pas le film, bon, ça c'est une autre question. Mais au moins, j'ai réussi à montrer ça dans le film. Et du coup, je pense que dans l'avenir, les réalisateurs, le monde du cinéma sera moins réticent par rapport aux personnes trans, peut leur proposer des rôles, comme il le fait déjà... En Espagne, ça se fait déjà avec Almodovar.
Bon, justement, à ce propos, quand tu dis que le scénario t'a plu parce qu'il évitait justement la caricature, pour avoir vu le film, oui, je suis d'accord, puisqu'il évite le fait que Thelma soit une victime, qui souffre, qui se drogue, qui boit et qui meurt au fond de je ne sais pas quel fleuve. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une caricature de la féminité de la femme vue par l'hétéro. Et c'est ça, finalement, ce qui se passe dans les films d'Almodovar, que j'adore en plus, mais dans la démonstration de qu'est-ce qu'un hétéro voit comme qu'est-ce qu'un hétéro voit dans l'image de la féminité chez une transsexuelle. Est-ce que ça t'a dérangé?
Personnellement, non, ça ne m'a pas dérangé. La féminité de Thelma, je trouvais qu'elle n'était pas trop caricaturale, justement. J'avais très peur, justement, parce qu'au début, le rôle, c'était une fille qui était top modèle. Au départ, quand il m'a parlé de ça, je me suis dit, ça y est, on va faire dans les grands chapeaux, etc. J'ai eu très peur. Puis finalement, Pierre Alain, justement, quand il m'a rencontré, etc., il m'a dit, non, finalement, elle n'est pas mannequin, on va changer le truc. On va faire comme c'était Madame Tout-le-Monde. Dans l'histoire, je ne sais plus ce qu'elle fait dans le film, du coup.
Bah,
on ne le sait pas, on ne le dit pas. Et moi, je pense qu'on a évité, hein, j'ai pas eu cette impression, mais c'est vrai que c'est un regard hétérosexuel sur Thelma, donc comment un homme hétérosexuel voit une femme, finalement, c'est ça. Donc c'est vrai qu'elle est toujours maquillée, toujours coiffée, toujours féminine. Le seul tort que je reproche à Pierre Alain, mais je lui ai dit mille fois, c'est que dans ce film, elle n'a pas une existence, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de passion. On ne voit pas au moment où justement où elle travaille, on ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie, on ne sait pas si elle a des passions, si elle aime les chevaux, si elle collectionne les timbres, ce genre de choses qui arrivent chez tout le monde et chez toutes les trans que je connais, c'est la même chose. Donc j'ai regretté qu'on a balayé un peu tout ce côté-là qui peut la rendre finalement plus humaine. Mais finalement, je trouve que c'est traité avec... Le regard, il est très tendre sur Thelma. C'est ça que je défends, en fait. C'est ce regard très tendre.
En fait, c'est la personnalité et toute la partie psychologique du personnage qui a été un peu mise de côté au profit d'un aspect plus visuel, quoi.
Exactement. Mais en tout cas, Pierre Alain, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit que... Il m'a donné raison. Cinq ans après, il m'a dit, finalement, tu avais raison. C'est quelque chose que j'aurais dû prendre le temps de le faire, etc. Et finalement, il a reconnu que matériellement, ça revenait pas beaucoup plus cher de lui donner une existence. Moi, j'avais proposé à l'époque qu'elle soit passionnée par les chevaux, qu'on la voit à un moment donné dans son... chez elle, avec des bottes en caoutchouc.
Une petite maison à la prairie, à son trans.
Oui, alors, c'est vrai.
De beaux étalons.
Oui.
Des beaux étalons.
C'est une des choses qu'on remarque assez vite. Quand on dit, c'est un regard hétéro sur une personne trans, c'est un double regard hétéro, puisqu'en fait, on voit le regard du réalisateur et du chauffeur de taxi, puisqu'en fait, finalement, Thelma loue les services d'un chauffeur de taxi pour l'amener jusqu'en Grèce. Et donc c'est le regard du chauffeur de taxi, c'est le double regard du réalisateur et du chauffeur de taxi sur la personne trans. Et c'est vrai que la personne, enfin Thelma, elle n'existe que dans le regard de ce chauffeur de taxi.
Absolument,
elle n'existe que dans le regard à un moment donné, quand elle se retrouve nue dans la chambre. Je veux dire, Thelma est réduite à un moment donné à quelque chose d'anachronique dans la représentation d'un hétéro.
Tout à fait. On a discuté justement avec Pierre Alain sur ça. Lui, il défend ce point de vue. Ce que je comprends aussi, il m'a dit, moi je suis un homme, je ne peux écrire que des choses que je connais, donc je ne veux pas mettre dans la peau d'une femme. Et finalement, il m'a dit, alors à un moment donné, je l'ai beaucoup titillé, puis il me dit, écoute Pascal, tu feras Thelma numéro 2, il te la fera avec le regard d'une femme, mais là c'est mon film, c'est moi qui le fais, etc. Mais oui, c'est la même personne, hein, le chauffeur de taxi, enfin l'acteur principal dans le film, qui est le... Je pense que c'est le réalisateur qui a transposé...
Il a construit le rôle du chauffeur taxi pour
lui. Voilà, pour lui. Donc on peut dire que c'est la même personne. Mm-hmm. Parce que et je trouve que justement, Laurent, il joue très très bien...
Le réalisateur.
voilà, je lui dirais.
Vincent ?
Oui, mais justement, toi tu parlais de regard tendre sur Thelma, j'avais juste l'impression, et c'est peut-être ma espèce de paranoïa, ce qui me dérange vraiment, c'est que c'est le regard justement d'un hétérosexuel qui caricature la figure trans, qui reste une figure ou un symbole, une espèce de fantasme, qui n'avait pas de regard tendre sur Thelma, mais une infantilisation, que c'était le regard et du père, et du mari, et de l'homme sur la femme, dans une espèce de catégorie de classe, de domination, qui est vraiment très gênante. Enfin, j'ai ressenti ça. Et autre chose, quand tu parles justement de Thelma 2, téléphone...
Pendant les morceaux de musique, s'il vous plaît, parce que c'est pas possible qu'on réponde pendant qu'on est en direct.
Merci. Et mon autre question, c'est, tu parlais justement de Thelma 2, est-ce que toi, tu as pu influencer le scénario
Alors, ce que je proposerais, c'est qu'on fasse une petite pause.
Mais c'est quoi cette hachure, Mireille, on est coupé dans notre élan, quoi.
Pardon, parce que c'est la question que je pense qu'il fallait poser maintenant, mais ça serait bien qu'on fasse une petite pause.
D'accord.